Bonjour.
Vous continuez donc à nous faire marcher, mais cette fois, vous nous promettez la vie de château, c'est ça?
Si seulement j'avais ce pouvoir-là. Enfin, vous, essayez de faire marcher les gens, ça oui, effectivement.
Il y a 15 itinéraires qui sont donc réunis dans ce livre. Vous les avez tous testés, évidemment.
Oui, bien sûr.
Est-ce que certains parcours, certains châteaux n'ont pas passé le test? Est-ce qu'il y a des balades que vous imaginez que vous n'avez pas retenues?
Oui, il y en a plusieurs, parce que en fait, par rapport aux balades au fil des lacs qui s'imposent presque d'un point de vue naturel, il y a facilement des chemins, etc. Au niveau des châteaux, c'est devenu très compliqué d'accès souvent. Et vous allez pouvoir un magnifique château. Typiquement, je pensais faire Yverdon, c'est quand même un des quatre pôles de la région Jura-Trois-Lacs. Et puis le château et la vieille ville d'Yverdon sont magnifiques. Seulement, ils sont entourés d'une barrière urbaine.
Difficilement franchissable.
Oui, ou en tout cas pas très agréable à franchir, et ça n'a pas de sens dans la mesure où le guide a pour but de concilier le patrimoine bâti, la nature, hein, un esprit nature et culture finalement, enfin essayer en tout cas. Ça n'avait aucun sens de marcher trois quarts d'heure dans des zones urbaines pour voir juste un magnifique château mieux.
La dernière fois, vous parliez des lacs, alors à se balader autour des lacs, c'est bien au printemps et en été. Là, avec les châteaux, vous nous proposez, et vous avez attendu plutôt l'automne et l'hiver, c'est mieux de les visiter en ce temps-là, Alexandre
Barbet ? En fait, j'ai hissé au fil des quatre saisons. Les balades commencent en février, février-mars à des altitudes relativement basses, comme la Baroche en Ajoie, comme le littoral neuchâtelois du côté de la Béroche. Et puis ensuite, je progresse, et c'est d'ailleurs dans cet ordre-là que paraissent les balades du printemps à l'hiver, avec une dernière balade sur le petit coup de neige que j'ai eu la chance d'avoir en décembre sur Cressier, ce qui a donné lieu notamment au niveau photo, puisque je suis aussi l'auteur des images de ce guide, quelque chose d'assez sympa.
Ces châteaux, on peut tous les visiter, ou alors on peut en faire le tour, admirer l'extérieur, mais il faut avoir un pass spécial pour pouvoir y pénétrer.
C'est une excellente question. Alors, c'est peu d'entre eux, en fait, sont accessibles intérieurement au public, mais il y a quelques classiques, comme Valangin, comme le château de Clairès, qui est un musée de la vigne et du vin. Il y a le château de Joux, près de Pontarlier. C'est les seuls qui sont vraiment visitables. Enfin, j'en oublie peut-être un ou deux, mais la plupart, effectivement, on les contourne, en fait, parce que c'est pas un bouquin spécialisé, c'est pas un bouquin scientifique sur les châteaux. Les châteaux sont vraiment là comme fil rouge à la découverte d'un patrimoine plus large, encore une fois, des paysages, des rivières... Les châteaux, c'est vraiment des points d'appui. Et certains, rien que de les voir, de les découvrir, c'est grandiose. J'ai découvert des petites perles. Mais effectivement, il y en a relativement peu qui se visitent intérieurement.
La région du Jura et des Trois-Lacs, c'est une région qui est particulièrement riche en châteaux. Vous avez eu l'embarras du choix, Alexandre Bardet ?
Alors oui, il y avait l'embarras du choix, oui et non, parce que il y en a, ça c'est sûr. Se posaient encore une fois les questions d'accès. Hein, c'est à rien de faire 5 km aller-retour sur le même chemin pour voir un château magnifique. Il y en a un sur le Mont-Rémeux que j'avais envie de faire, dont j'ai oublié le nom, un tout petit château. Mais finalement, je n'arrivais pas à faire une boucle, puisqu'elles sont toutes en boucle, ces balades. Je n'arrivais pas à faire une boucle là autour.
Et puis, c'est des châteaux de quelle époque et qui sont dans quel état aujourd'hui? Des lieux que, pour certains qui ont des fonctions officielles aujourd'hui encore?
Alors en fait, l'histoire des châteaux, pour essayer d'être court, on peut dire qu'entre le XIe et le XIIIe siècle, on construit véritablement des forteresses, des châteaux forts qui ont une vocation essentiellement guerrière, avec une haute tour qui est là à la fois pour le guet, mais aussi pour montrer une espèce de puissance hein, du seigneur sur ses terres. Et puis progressivement, au fil des stratégies militaires et autres, on passe plutôt ensuite 14-15, on ajoute un côté apparat, un côté confort aussi. Hein, la tour du château de Valangin, avec une chambre très confortable, avec un belvédère pour la maîtresse des lieux, Guillemette de Vergy. Et puis, à partir du 16-17, les nobles construisent plus guère que des manoirs, des gentilhommières. On est là vraiment dans le confort, dans un certain apparat, mais qui n'a plus du tout de vocation guerrière. Et puis, il faut dire que ces châteaux, pratiquement aucun, en tout cas ceux du Moyen-Âge, ne sont parvenus jusqu'à nous dans leur état originel. Il faut savoir que le château de Valangin, dont on connaît bien la silhouette, si on emprunte la route Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, la partie actuelle ne représente guère que le tiers, en gros, de ce qu'a été au Moyen-Âge le château de Valangin.